Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale Champs-Élysées Film Festival 2023, jour 2. Et aujourd'hui, on va parler de trois films. On va commencer tout de suite avec un film en séance spéciale. On va parler de Dunk or Die de Nicolas de Virieux. Dunk or Die retrace le parcours de Kadour Ziani, prodige du dunk, de son enfance sur les playgrounds de Saint-Dizier au plus beau stade de la NBA. Alors, si je complète un peu plus ce synopsis, qui est Kadour Ziani, en fait, c'est, comme vous l'avez entendu, quelqu'un qui vient de Saint-Dizier, donc en France, qui vient d'une cité qui apparemment était réputée, être, je sais plus exactement comment elle s'appelle, honte à moi, désolé si tu écoutes ça, Kadour Ziani, bref, mais voilà, désolé, mais je ne sais plus comment ça s'appelait, mais qui en gros était réputée pour être à peu près l'endroit le plus chaud de France, quoi, voilà, c'est ce qui est sous-entendu, enfin, c'est ce qui est même pas sous-entendu, ce qui est dit dans un extrait de journal télévisé, en gros, si on vous demande où est-ce que la ville où c'est le plus chaud, on vous dira Saint-Dizier. À Saint-Dizier, on vous dira que c'est là-bas. Et quand vous allez là-bas, on vous dira que c'était le bâtiment. Et c'est de ce bâtiment-là que vient Kadour Ziani. Donc voilà, c'était. Même lui raconte en fait dans le documentaire qu'il vivait des choses assez dures, qu'il y avait des crimes en fait, hein, du trafic de drogue, des règlements de compte, etc. Et donc que c'était pas vraiment un environnement propice à ce qu'un enfant puisse avoir une enfance normale, tout simplement. Et donc en fait, il a dû se développer un mécanisme pour survivre, et donc il explique que il s'exprimait à travers son corps et que voilà, il a commencé à faire du basket. Et que pour lui, quand il voyait les gens dunker, pour lui c'était une œuvre d'art. Et en fait, voilà, les dunkers c'était des artistes et il était fasciné par les gens qui faisaient du dunk. Et il s'est mis à s'entraîner sans relâche comme un fou jusqu'à en fait monter une équipe qui s'appelle la Slam Nation, enfin, pas une équipe, mais bref, un collectif qui en fait se. Enfin, oui, se performer pendant les mi-temps ou des événements. Et en fait, ils étaient spécialisés dans le dunk. Et donc voilà, ça raconte son histoire. Alors, on a eu la chance d'avoir du coup Kadour Ziani qui est venu discuter après la projection du film. C'est très inspirant en fait comme film parce que justement, c'est l'histoire de quelqu'un qui en fait part de très loin, qui part d'une cité à Saint-Dizier pour finir au Madison Square Garden. Donc bref, c'est assez exceptionnel quand même. Effectivement, il y a des phrases qui moi sont venues me percuter en pleine poire, moi qui suis bref dans une phase aussi questionnante par rapport à mon avenir. Un truc du style oui, ça sert à rien de faire des, enfin de faire ses cotisations pour la Sécu. Il faut vivre de son rêve quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que ce genre de phrase, moi, c'est venu me percuter, me prendre au cœur, directement. Maintenant, c'est un film qui donc fait le choix d'être en noir et blanc intégralement, qui alterne donc des images d'archives, que ce soit vidéo ou photo, et des interviews face cam de Kadour Ziani, mais de gens qui l'a côtoyé, de ses anciens coéquipiers à Slam Nation, de sa famille, etc. Mais donc il y a un choix qui est fait avec ce noir et blanc. Voilà, moi c'est le sens, c'est la valeur que je vais donner. C'est que en fait l'histoire est vraiment raconté de manière dramatique, j'ai l'impression, pas dramatique dans le sens tout est grave, etc. Mais il y a vraiment, c'est ça, ouais, limite, on donne à cette histoire une dramaturgie, quelque chose, un ton un peu, si vous voulez, un peu justement dans le cliché auteur, quoi, je dirais vraiment, oui, c'est, ah, mais oui, ok, c'est vrai, c'était pas facile. Alors que, effectivement, c'était pas facile, voilà, quand on l'entend raconter son histoire, c'est vrai que c'était pas facile et c'est vrai que rien ne le prédestine à terminer là où il a terminé, voilà, juste vraiment son talent, son travail et son abnégation et sa rage. Et voilà, donc ça c'est je remets pas en cause ça vraiment, mais c'est trop pointu en fait. Voilà, c'est raconté d'une manière si dramatique avec ce noir et blanc là, etc. Cette manière aussi parfois de venir filmer les visages de très très proches, de cadrer que les yeux, etc. C'est raconté d'une manière si dramatique que en fait au début ça fait un peu pathétique du coup. Voilà, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film au début. Après, une fois que ça part dans justement cette Slam Nation, pour le coup je trouve ça vraiment vraiment très passionnant. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport et effectivement je connaissais pas ce monsieur, et voilà, le fait d'avoir vu un documentaire sur sa vie puis d'avoir pu le rencontrer après, c'était très 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 enrichissant vraiment. Voilà, et en fait oui, c'est vrai que ça montre tout simplement que comme il l'a si bien dit et comme la présidente du festival l'a dit, voilà, c'est un film qui montre que tout est possible en fait. Voilà, croyez en vos rêves et tout est possible. Et je pense que ça fait du bien d'avoir ces films-là. Après, bon, si je dois l'analyser en tant que documentaire, c'est vrai que les deux choses que j'arrive le moins à analyser dans le cinéma, même si j'ai un profond respect pour ces cinémas-là, c'est donc le documentaire et l'animation. Voilà, mais j'estime quand même que dans un documentaire, le fond est au centre de tout. Voilà, c'est vous faites un documentaire parce que vous avez quelque chose à raconter, que vous avez un sujet à évoquer. Donc du coup, votre forme va forcément se mettre au service de ce fond-là parce que c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui doit le plus ressortir. Et donc là, effectivement, on voulait, je pense, insister sur le fait que ce soit bon, voilà, quelqu'un qui a eu une enfance très difficile, voilà, qui a eu du mal à s'en sortir dans la vie, etc., etc., et qui, oui, bon, voilà, qui tout simplement a dû vraiment travailler et voilà, et bref, tout ça pour dire que c'était pas gagné. Mais en fait, je trouve justement que c'est un peu trop accentué. Maintenant, après, dans les images d'archives déjà qu'ils ont sélectionnées, je suis. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce qui est fait. Je suis d'accord avec ce montage. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez des images qu'en fait eux-mêmes dans la Slam Nation ont pris. Voilà, qui ou à l'époque ils se filmaient tout simplement. Et donc, c'est voilà, on a vraiment les images où on est au plus près d'eux. Et donc, au-delà de son histoire, c'est vrai que Kador Ziani, c'est quand même quelqu'un qui est, voilà, une figure qui est assez passionnante. Voilà, il faut le dire, qui justement en fait c'est de l'abnégation, mais c'est limite dans le vice en fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment où littéralement il s'ouvre le doigt, pardon, mais une entaille qui m'a fait détourner les yeux de l'écran, voilà, tellement c'est immense en fait, et que en fait on peut limite voir son os quoi, et donc il se fait recoudre bah, dans la foulée. Et il est de retour, je crois, sur le terrain le lendemain ou 2 jours après. Voilà, ce qui est absolument. Et encore, il voulait y retourner dunker bah, tout de suite après, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est vraiment comment voilà, quelqu'un arrive à s'en sortir dans quelque chose qui est difficile à travers une chose qui l'anime et qui le pousse à se repousser et à repousser ses limites. Et voilà, et je trouve ça passionnant, en fait. Voilà, il nous a raconté qu'aujourd'hui, il a quasiment 50 ans et qu'il faisait encore des dunks. Et ça, c'est fou, parce que bon, bah, la plupart des sportifs, voilà, ils déclinent dans la trentaine. Et lui, aujourd'hui, il se retrouve encore à dunker, apparemment. Donc voilà, c'est absolument fou, en fait. Comment cette chose, voilà, cette passion est venue et l'a sauvé. Et du coup, le titre Dunk or Die, en fait, est très. Enfin, c'est révélateur, voilà, c'est assez pertinent. Où, bah, du coup, oui, c'est vraiment. Voilà, pour lui, c'est sa raison de vivre, en fait, limite. Il doit dunker. C'est ça qui est fou. Et voilà, il y en a assez. Je sais pas, il y en a qui vivent pour faire des films. Il y en a qui, je sais pas, ont un sport. De prédilection comme lui, il y en a, c'est les animaux, il y en a, enfin bref, c'est leur famille, etc. Lui, c'est le dunk, mais c'est le dunk poussé à des endroits où vraiment, enfin, des limites que vraiment je ne supposais pas et je me disais, mais ok, enfin voilà, j'ai découvert vraiment qu'on pouvait être autant passionné de dunk et j'ai trouvé ça fascinant. Parce qu'en plus, enfin, au-delà d'être passionné, c'était surtout le meilleur dunker possible, quoi. Enfin, c'est à peu près, on comprend globalement dans le documentaire que. Bon, c'était un peu le meilleur de l'histoire et que les stars de NBA, ça c'est dit explicitement, avaient peur de se mesurer à lui tellement il était bon. Donc voilà, on peut considérer que c'était un peu le meilleur dunker de l'histoire. Donc effectivement, c'est intéressant d'avoir des documentaires sur ces figures-là. Maintenant, oui, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y a une mauvaise articulation entre le fond et la forme qui fait que par moment, je me suis un peu ennuyé ou en fait, c'est pas tellement de l'ennui, mais en soi, j'étais très extérieur, j'étais très hermétique au film, alors que je pense que ça aurait pu énormément me toucher. Pour moi, il y a une erreur dans la forme, voilà, il y a une erreur de. Bah voilà, comme je vous l'ai dit, hein, voilà cette forme moi, qui m'a un peu perturbé et je trouve ça vraiment dommage parce que voilà, je pense que c'est un film que j'aurais pu bien plus apprécier, mais voilà, malheureusement. J'ai trouvé ça sympathique, mais ça va être compliqué de l'amener au-delà de ça. Et donc j'aimerais toucher quand même un ou deux mots sur la discussion qu'on a eue après avec Kador Ziani, qui était très intéressante, qui était très enrichissante. Il nous a vraiment partagé bah voilà, sa vision de la vie, de comment lui voyait les choses, de ses croyances, de voilà, qu'est-ce qu'il avait fait bah, se projeter dans l'univers du dunk, qu'est-ce qui voilà, l'animait au quotidien, qu'est-ce qu'il essaie de transmettre aux enfants, voilà, qui l'éduquent, etc. Donc c'est vrai que c'est. Bref, c'était une discussion très intéressante. Je n'ai pas été d'accord avec tout. Voilà. Il y avait des fois, je ne savais pas trop me positionner par rapport à. Alors que, en fait, c'est bizarre. Je sentais que techniquement, j'aurais dû accrocher à sa vision de la vie, mais que ça ne le faisait pas vraiment au final. Voilà, après, ça a l'air d'être quelqu'un quand même de très, très sympathique. sympathique, très aimable, qui aime bien prendre la lumière quand même, ça se voit, voilà, mais bon, c'est pas méchant. En tout cas, c'était, voilà, même si c'est pas le film que j'ai préféré de la journée, même si, voilà, je pense je le dire, c'est le film que j'ai le moins aimé de la journée, même s'il est pas mauvais, très clairement. Voilà, c'était quand même une séance qui était très enrichissante, donc je suis très heureux de l'avoir fait. Allez, on va passer à un autre documentaire, cette fois-ci dans la compétition officielle des longs métrages américains, puisqu'on va parler de Another Body de Sophie Compton et Robin Hamlin. Another Body suit la quête de vérité et de justice d'une étudiante qui découvre la circulation en ligne de pornographie deepfake à son image. Alors je pense que c'était la séance la plus intéressante vraiment de ce festival depuis qu'il a commencé, même si c'est pas le film que j'ai préféré, mais ça fait partie quand même des films que j'ai beaucoup apprécié vraiment, parce que déjà je commencerai par dire que c'est un film qui est d'utilité publique, qui est assez terrifiant en fait, voilà, de voir qui est d'utilité publique déjà, parce que il parle de discrimination envers les femmes, il parle de misogynie, il parle de des résultats de la société patriarcale en fait, de pourquoi on, voilà, on en arrive à des situations comme dans le film, et il parle aussi d'intelligence artificielle, donc voilà, là on est au cœur de ça, on n'a jamais été autant dans tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc effectivement c'est un film qui est d'utilité publique de par les valeurs qu'il véhicule et de par son timing en fait, voilà, qui est d'une justesse mais impressionnante. Mais c'est vrai que c'est des histoires, je pense que si voilà, il n'y avait pas eu ce documentaire, on n'en aurait jamais entendu parler, donc vraiment ça vaut le coup de le faire, tout simplement, voilà, surtout vu l'histoire. C'est absolument horrible en fait, hein. Enfin, imaginez-vous recevoir un message où on vous envoie un lien Pornhub en fait, tout simplement, et voilà, vous cliquez dessus et vous découvrez votre visage dans une vidéo pornographique, alors que bien évidemment vous n'avez jamais fait de vidéo pornographique et que juste quelqu'un a utilisé votre visage et l'a mis sur un site pornographique. Et en fait, ça, selon la stat qui est donnée dans le documentaire, c'est la réalité de beaucoup trop de femmes, voilà, puisque dans 90%, la technologie du deepfake est utilisée pour justement des fins pornographiques, voilà, pour justement mettre le visage de gens sur des contenus pornographiques. Et donc, en fait, il y a des gens qui, tous les jours, se font gâcher leur vie par cette technologie, et voilà, qui découvrent qu'en fait, on a utilisé leur visage pour les mettre sur des sites pornographiques. Et donc, on a quasiment exclusivement des points de vue féminin, ce qui est tout à fait logique puisque c'est les femmes, enfin les femmes sont les premières concernées par ce fléau-là. Et en fait, c'est une question très intéressante de quelqu'un qui, voilà, pour le coup, fait évidemment bien réfléchir sur la société dans laquelle on vit. Mais oui, pourquoi c'est les femmes qui sont principalement touchées par ça? Et donc, le réalisateur du film a très bien répondu, dans le sens où on est quand même dans une société misogyne et patriarcale, voilà, c'est je pense que voilà, c'est inutile de se le cacher, ou alors voilà, si vous êtes dans le déni, désolé de vous l'apprendre, mais donc oui, on est quand même dans une société misogyne et patriarcale, donc forcément voilà, tous les outils etc. Sont utilisés contre les femmes, voilà, ce qui est assez terrible. Et puis en plus c'est vrai que ces outils là ils sont nés dans les entreprises de la Silicon Valley à composante majoritairement masculine, et où forcément c'est la misogynie, etc., qui domine. Effectivement, c'est assez terrifiant, en fait, de se dire que les femmes sont victimes de ça, parce que, comme l'ont justement rappelé le réalisateur et la réalisatrice, les technologies, c'est un outil. Voilà, les technologies, c'est pas bien ou c'est pas mal. C'est neutre, en fait, c'est l'usage que vous en faites qui est bien ou mal. Et donc, en fait, ça soulève des choses super intéressantes. Voilà, il y a quelque chose qui s'appelle le dilemme du contrôle social des technologies. Et en fait, ça stipule qu'une technologie, quand elle est mise sur le marché, on n'a pas assez de recul sur la technologie pour la réguler correctement. Et en fait, quand on a ce recul pour réguler la technologie correctement, c'est déjà trop tard parce qu'elle a pris trop de place, ou voilà, il y a déjà eu des dégâts trop considérables pour qu'on puisse la réguler, que ce soit efficace. Et donc cette technologie là pour moi elle fait pas exception à la règle, clairement, et ça se voit bien dans ce film, tout simplement. Maintenant je vous parlais de l'articulation entre le fond et la forme, et de comment pour moi la forme doit servir le fond, et là ça pour moi c'est un documentaire qui le comprend parfaitement, puisqu'il y a une révélation au bout de 20-30 minutes de film, je pense, et pour moi elle arrive un peu tôt, vraiment. Si le film avait tenu tout le long, vraiment, et juste avait fait cette révélation-là à la fin, ça aurait été absolument, absolument formidable, et j'aurais terminé sur le cul, j'ai terminé sur le cul. Mais donc, en fait, oui, il y a vraiment un moment où on fait, où la personnage principale, donc Tyler, fait « Au fait, je m'appelle pas Tyler ». Voilà, je ne m'appelle pas Tyler, et en fait ce que vous voyez c'est pas mon visage, c'est juste que voilà, on a mis le visage d'une actrice sur le mien pour que je puisse m'exprimer librement. Donc ça, en fait, ça amène deux choses. Ça amène déjà, je pense, une révolution dans le monde du documentaire. C'est ce que la réalisatrice disait, des fois quand vous faites des documentaires et que les personnes souhaitent pas s'exprimer, pardon, un visage découvert, vous êtes obligé de flouter, voilà, de rajouter des effets et tout, alors que là, la personne ne souhaitait pas s'exprimer à visage découvert, mais on lui a tout simplement donner un autre visage. Et donc, ça fait qu'on a pu quand même avoir ses expressions faciales, ses émotions, etc. Il y a un moment où elle pleure. Enfin, voilà. Donc, bref, on a pu quand même avoir ces émotions-là. Et donc, ouais, je pense que c'est une vraie percée, une vraie avancée dans le monde du documentaire qui... Les gens vont beaucoup l'utiliser, je pense, dans le monde du documentaire. Voilà, sachant que j'avais jamais vu ça avant, peut-être ça a été utilisé, mais j'étais pas au courant. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est quand même très intéressant, c'est qu'ils se réapproprient cette technologie qui est si néfaste, en fait, qui est utilisée de manière si néfaste dans le monde. Et on le voit dans leur film, hein, voilà, c'est l'exemple parfait. Et oui, il y a une réappropriation de la technologie où ils illustrent leurs propos. En fait, eux en font quelque chose de bien. C'est de la technologie en soi et pas mauvaise, puisque, en fait, voilà, eux le prouvent et arrivent à en faire quelque chose de bien. Et en même temps, ils invitent les gens, à faire attention en fait à ce qu'ils voient, parce que je vous promets que moi, avant que la révélation soit faite, j'avais vu des fois qu'effectivement les lumières étaient un peu étranges, mais de là me dire que la technologie était utilisée pour masquer le visage de la victime, j'en étais jamais arrivé là dans ma réflexion. Et c'est pour ça que quand il y a eu cette révélation, j'ai fait « Ah oui, quand même !» Et c'est bien fait. Et j'ai passé tout le reste du film à vraiment guetter chaque petit détail, etc. Et donc effectivement, j'arrivais à le voir, mais parce qu'on me l'avait dit. Voilà, si jamais on ne l'avait pas dit, je sais pas combien de temps j'aurais mis pour m'en rendre compte. Donc voilà, c'est un film qui en fait est tellement brillant, dans son fond, dans sa forme, etc. L'articulation fond et forme, c'est tellement brillant que c'était incroyablement intéressant. Et en fait, le fait de pouvoir en discuter avec les personnes derrière, c'est toujours intéressant. Mais là, le réalisateur et la réalisatrice étaient encore plus intéressants, je pense, que beaucoup de gens que j'ai fait dans ma vie, que ce soit dans ce festival-là ou pas. Et ils avaient vraiment un propos, ils avaient vraiment quelque chose à défendre, ils avaient vraiment une vision qui était assez juste et assez unique. Et pour le coup, voilà, je ne pouvais que m'incliner, en fait. Alors après, si je devais reprocher quelque chose au film, ce serait peut-être un ventre mou vers le milieu où il y a un problème de rythme, où effectivement, j'ai ressenti un peu d'ennui. Après, je sais que moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très facilement devant les documentaires. Voilà, donc dès qu'il y a une petite perte de rythme, je vais le ressentir. Néanmoins, voilà, c'est vrai que c'était absolument passionnant. Voilà, un film absolument passionnant qui a été fait par des gens absolument passionnants. Et c'était une séance passionnante. Voilà. Allez, on va retourner dans la catégorie des avant-premières, puisqu'on va passer à ce qui était une de mes plus grosses attentes du festival, hein, clairement, puisqu'on va parler de Master Gardener de Paul Schrader. Who did this to you? What are you gonna do? This life, filled it with rules. Now seems the time to break one. Narvel est un horticulteur dévoué au jardin de la très raffinée Mrs. Haverhill. Mais lorsque son employeuse l'oblige à prendre sa petite nièce Maya comme apprentie, le chaos s'installe, révélant ainsi les sombres secrets du passé de Narvel. Alors c'est une séance qui a été ponctuée de la participation de l'acteur du film, donc Joel Edgerton. Le réalisateur malheureusement ne pouvait pas être là parce qu'il prépare son prochain film, mais bref, c'était très enrichissant aussi d'avoir l'acteur. Je pense que le Q&A à la fin a duré à peu près une heure, vraiment, ce qui est beaucoup pour un Q&A, clairement. Et Joel Edgerton. Mais de toute façon, en fait, tous les invités pour l'instant de ce festival sont adorables. Je pense à Ben Whishaw, je pense à Joel Edgerton. Vraiment, tous les invités sont super gentils. Et c'est ça qui est fou, voilà, c'est que c'est des gens qui ont fait des grands films, en fait. Hein, voilà, bon, Ben Whishaw, il a quand même fait James Bond, hein, c'est pas rien. Si on doit être... même si c'est pas son plus grand rôle, Joel Edgerton a quand même fait Star Wars, voilà. C'est vrai que c'est quand même impressionnant. Et pourtant, c'est des gens qui sont très simples, très accessibles, très sympathiques, et voilà, qui parlent, qui discutent, qui ont le sourire, qui font des photos, etc. Et bref, c'est formidable. Passons au film maintenant. Alors, c'est un film, pareil, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment pas été déçu. Un des trucs qui m'a le plus, c'est à quel point le film est moral, en fait, voilà. Je suis extrêmement d'accord avec Joel Edgerton sur beaucoup de choses qu'il a dit. Je crois que ça a été filmé. Je sais pas si ce sera disponible un jour, cette discussion là qu'on a pu avoir avec lui, mais en tout cas je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dit, tout simplement, et notamment le fait que en fait Paul Schrader, c'est un cinéaste, et voilà, en tout cas ce film l'illustre bien, dans ce film il a voulu que le spectateur s'interroge sur ce qu'il voit, sur est-ce que je suis d'accord avec ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils nous disent, moi en tant qu'acteur, j'ai eu des discussions avec Paul en disant, mais sur le scénario, ça va pas. Moi je pense qu'il devrait se passer ça, j'ai un problème avec ça. Et je trouve ça super intéressant que le film soit tellement bien écrit, soit tellement bien foutu, que même les acteurs aient un problème avec leur personnage, en fait. Que eux se disent, mais attends, c'est pas du tout ça qui devrait se passer. Je veux dire, moralement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en fait, quand il nous a raconté ça, Joel Edgerton, quand il nous a raconté que Quintessa Swindell, qui joue donc Maya, avait aussi été voir Paul Schrader pour lui, bah voilà, pour lui dire deux mots, c'est vrai que j'ai compris la puissance de ce film. Enfin voilà, en soi, j'avoue avoir eu un coup de barre pile au début du film, ce qui était assez terrible. Vraiment, c'était vraiment le pire moment pour être fatigué. Mais j'ai quand même réussi à bien rentrer dedans et à être très intéressé par ce qui se passait. Et voilà, donc j'avais déjà compris voilà, ce que je vous dis là. Mais en fait, la discussion m'a encore plus fait réaliser ça et m'a fait réaliser à quel point c'était vrai en fait. Et donc bon, je vais évoquer les autres points avant de passer sur la partie spoiler, voilà, concernant la morale. Mais oui, effectivement, je trouve la photo absolument formidable, vraiment à quel point... déjà la nature, comment elle est filmée, ces jardins, je trouve que c'est un peu terne, c'est un peu fade, voilà, quand on voit juste les arbres verts, etc., mais que c'est les fleurs qui viennent vraiment donner de la couleur, donner de la profondeur aux images, voilà, et les rendre belles tout simplement. Et je trouve ça très révélateur vraiment en fait, on a cette base là de voilà qui sont les plantes, mais en fait pour que ça devienne beau, il faut entretenir tout ça, il faut voilà le faire germer, et je trouve que ça fait écho avec le passé du personnage dont je parlerai du coup dans la partie un peu plus spoiler. Et oui, on a un jeu absolument formidable, hein, je pense à Joel Edgerton qui pour le coup ouais doit être quelqu'un de très stoïque, voilà, qui est assez froid, qui ne laisse pas transparaître beaucoup, il y parvient à la perfection. Je pense à Sigourney Weaver, bon, est-ce qu'on a besoin de complimenter encore Sigourney Weaver? Et je pense à, comme j'ai dit, Quintessa Swindell, qui est absolument formidable dans le rôle de Maya. Voilà, et donc tout le monde joue bien dans ce film, donc voilà, que demander de plus. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de la réalisation de Paul Schrader, mais en fait c'est tellement parfait. Enfin voilà, je veux dire, chaque plan est ce qu'il doit être, voilà, en termes de longueur, en termes de composition, en termes de cadrage, chaque plan est ce qu'il doit être, et ça fait du bien de voir un film ouais, aussi juste dans ses plans, voilà, ça fait du bien. Et donc effectivement, il laisse aussi un peu de place au plan séquence, il laisse pas mal tourner, voilà, il a un style qui moi me correspond bien, donc voilà, j'ai beaucoup aimé sa réalisation. Et donc pour entrer dans la partie un peu plus développée qui risque de spoiler sur la morale, voilà, je parlerai de deux éléments. Je parlerai du passé du personnage principal et de sa relation avec Maya, voilà. Donc le passé, bon bah c'est clairement un ancien néo-nazi extrémiste suprémaciste blanc, et ce qui est super intéressant, c'est que il a des tatouages de cette période-là, littéralement des croix gammées, des signes des SS, des 88, voilà. Donc bon bah je développerai pas pourquoi 88 ici, voilà, j'ai appris ça cette année en cours, mais bon je développerai pas plus, voilà, parce que j'ai pas envie de... bref, voilà, sachez qu'en tout cas si vous voyez 88, fuyez, parce que du coup c'est des groupuscules néo-nazis, mais bref, mais oui, donc effectivement il a ce passé-là, et donc en fait il aurait pu totalement se faire retirer ses tatouages, voilà, il en a la possibilité en fait, mais c'est juste qui choisit de pas le faire, et je trouve ça très intéressant parce que du coup ça veut dire que ça fait quand même partie de lui, c'est-à-dire que il a conscience qu'il ne peut pas nier ce qu'il a fait, voilà, dans son passé, il a conscience que il ne peut pas éviter ça, que ça fait partie de lui, et ça je trouve ça vraiment bien. Pas dans le sens où bien évidemment bon il va pas aller voir les gens en mode hey, j'étais un néo-nazi, j'ai tué des gens, voilà, mais non c'est pas dans ce sens là mais dans le sens où en fait il a pris conscience de l'ampleur des choses, et en fait il s'en sert pour se construire et essayer de devenir quelqu'un de meilleur, mais il peut pas s'empêcher d'avoir de la culpabilité en fait, voilà. Et en fait on comprend que bon bah c'est un peu de l'absurde dans un sens camusien, limite, voilà, c'est juste que bah on l'a élevé comme ça, en fait, on l'a élevé dans la haine des gens qui étaient différents de lui, et donc du coup, il a grandi là-dedans, et il s'est enfermé là-dedans, dans juste la haine des gens qui étaient différents de lui, mais parce que c'est la seule chose qu'on lui a appris, et quand il a enfin pu s'ouvrir, voilà, ouvrir de sa perspective sur le monde, il a compris, en fait, voilà, et en fait, c'est assez terrible, et c'est pour ça que, notamment, bah, vous avez plein de petits villages en France qui vont voter extrême droite, c'est juste qu'en fait, on les a élevés comme ça, voilà. Si jamais les parents avaient été de gauche, et bah, ils auraient voté à gauche. C'est juste voilà une question de d'ouverture, etc., et en fait de bon bah c'est tout ce qu'ils connaissent, voilà, c'est tout ce qu'ils connaissent, et en fait quand il s'en est rendu compte, il a cherché à avoir sa rédemption, et en fait même lui, je pense, en tant qu'individu, ne s'est pas pardonné, et c'est pour ça qu'il garde encore ses tatouages, parce qu'il y a quand même une trace de culpabilité, il veut se souvenir de ça, de cette période sombre de sa vie, et voilà, en ça je trouve ça bien, parce que du coup ça fait que tous les jours ça le pousse à à devenir meilleur en fait. Voilà, tous les jours, ça le pousse à avancer. Après, bon, c'est vrai qu'il faut faire attention à pas trop rester dans le passé. Mais encore une fois, voilà, c'est quelque chose de très philosophique, hein. Est-ce qu'il mérite le pardon des autres, le pardon de lui-même? Est-ce qu'il mérite encore de vivre avec des gens, de vivre en société? Ça, c'est ce que Joel Edgerton a dit aussi. Voilà, donc ça crée des débats très très intéressants. Et je trouve ça vachement intéressant le fait justement qu'il garde les tatouages, voilà, qu'il garde en considération ce passé-là. Voilà, je trouve que c'est très révélateur du personnage. Et enfin, moi, c'est la partie où, bon, je sais pas, je sais pas si vraiment je suis d'accord avec ça, mais effectivement, il finit par avoir une relation avec Maya qui est 2 fois plus jeune que lui, à peu près, voilà. Et donc, effectivement, c'est ouais, je sais pas si c'était utile en fait, voilà, je sais pas. C'est vrai que le film était assez. Assez bien comme ça, mais en même temps c'est ce que Joel Edgerton a dit, Paul Schrader c'est un réalisateur qui aime bien frustrer les gens, voilà, qui en fait bah ouais veut que vous rentriez chez vous en discutant du film, en étant frustré, etc. Et dans un sens ça rejoint un peu la vision de Brecht au théâtre, c'est-à-dire que en fait il veut pas du tout que le spectateur soit passif, il veut que le spectateur soit actif, voilà. Et donc s'il y a toujours un aspect qui est censé faire réfléchir, Brecht en fait il veut sans arrêt vous rappeler que vous êtes au théâtre, voilà. Il veut pas que bah, on crée l'illusion, etc., et que vous avez l'impression de voir des personnages, enfin une histoire se faire devant vous. Il veut que vous voyez des acteurs dans des décors sur une scène de théâtre. Voilà, c'est une manière en fait de vous garder attentif, de vous faire réfléchir. C'est ce qu'on appelle la distanciation. Voilà, c'est ce qui a donné notamment au cinéma le procédé de briser le quatrième mur, enfin qui est aussi au théâtre d'ailleurs. Et donc en fait, ça fait partie. Bon bah voilà, je dis pas du tout que Paul Schrader se rapproche de ça, mais la finalité est la même, c'est-à-dire qu'on veut un spectateur qui soit actif et pas passif face au film. Et en ça, c'est quand même très intéressant, c'est quand même très très passionnant. Et effectivement, voilà, pendant le film, après, encore maintenant, quand j'enregistre, hein, voilà, ma tête, je sais qu'elle est en train de cogiter sur les événements du film, mais est-ce que je suis d'accord avec ça? Alors, avec la relation, je sais pas, toujours pas, parce qu'en soi, bon, bah, c'est vrai qu'il n'y a rien d'illégal, clairement, elle est majeure, mais elle est quand même bien plus jeune que lui, donc voilà, est-ce que c'est... Je sais pas. Ouais, je sais pas, dans un sens où c'est pas comme s'il avait... Enfin, ouais, je sais pas, je saurais pas vous dire, vraiment. Mais du coup, c'est ça qui est passionnant, voilà, c'est que même là, vous voyez, je suis encore en pleine hésitation, en fait, par rapport à ça, et cette relation me laisse assez perplexe, tout simplement, et ça prouve à quel point le film est réussi, en fait, à quel point l'aspect moral est réussi, à quel point ça va titiller les valeurs, les croyances de chacun, voilà, et je trouve que oui, c'est un film qui, sur ce point-là, excelle véritablement, et c'est pour ça que je l'ai autant aimé, voilà. Et donc bah, n'hésitez pas, ça sort le 5 juillet, c'est bientôt, vraiment dans 2 semaines, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Master Gardener. Allez, c'est la fin de cet épisode, voilà, donc axé sur le documentaire et la morale, hein. Clairement, je pense que bon, voilà, tous les films ne cochaient pas les cases, mais à chaque fois il y a au moins 2 films qui cochaient les cases. Et donc demain on va continuer la compétition américaine avec Mutt, voilà, et on va commencer, voilà, enfin bref on est le 3e jour, mais je vais commencer la compétition française avec Il pleut dans la maison. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir les 2 films, très hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vous dis à demain pour le débrief de la journée d'aujourd'hui.